Les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Ainsi, monsieur Rouletabille, vous avez aussi la preuve que Larsan a pu quitter la cour à votre nez et à votre barbe.
Oh oui, monsieur l'avocat général.
Eh bien, produisez-nous cette preuve, nous la verserons au dossier.
Mais comme vous allez voir, c'est bien peu de choses. Tenez, la voilà. Qu'est-ce que c'est ?
Mais c'est un morceau de bois.
En menuiserie, monsieur l'avocat général, ça s'appelle une cheville.
Votre érudition artisanale est éblouissante, mais poursuivez, monsieur.
Donc cette cheville que je tiens à la main s'adapte parfaitement au trou, toujours visible d'ailleurs, du corbeau de droite qui soutient, comme vous le savez, la terrasse en encorbellement.
Pouvez-vous nous traduire cela en langage clair ?
Monsieur le Président.
Je vous en prie, c'est passionnant.
Bien. Frédéric Larsan, qui prévoit tout et songe à toutes les possibilités de fuite autour de sa chambre, a enfoncé cette cheville dans le corbeau.
Dites-moi, s'il vous plaît, ce que c'est qu'un corbeau et je serai comblé.
Le corbeau, monsieur l'avocat général, est une pièce de pierre ou de bois placée en saillie sur le parement d'un mur pour supporter une poutre ou toute autre charge. Vous trouverez d'ailleurs tous ces renseignements dans un admirable petit ouvrage édité par Pierre Larousse.
Et puissiez-vous, monsieur, excuser cette interruption due à un grand ignorant. Donc, avec ce petit morceau de bois, tout s'explique.
Mais oui, tout devient simple, simple comme bonjour, simple comme toujours lorsqu'il s'agit de Larsan. Il pose un pied sur la borne qui est au coin de la cour, un autre sur le morceau de cheville qui dépasse, une main s'agrippe à la corniche de la porte du garde et enfin l'autre main sur la terrasse. Et c'est ainsi que, grâce à un coup de rein, Frédéric Larsan disparaît dans les airs. Et ça d'autant plus facilement ce soir-là, contrairement à ce qu'il nous avait laissé croire d'ailleurs, qu'il était en parfaite forme. Il n'était nullement endormi par un somnifère.
Précisez-nous ce point-là, s'il vous plaît.
Eh bien, ce soir-là, nous avions dîné avec lui dans sa chambre.
Maître Sinclair et vous ?
En effet, dîner froid excellent d'ailleurs, vin parfaitement choisi, et au dessert il nous a régalé d'une comédie remarquable, celle du monsieur qui tombe de sommeil. Et savez-vous pourquoi, monsieur le Président ? Pour que le lendemain nous ne soyons pas étonnés que moi, Rouletabille, je sois victime d'un somnifère en dînant avec lui. À partir du moment où nous avons subi le même sort, comment des soupçons pourraient-ils tomber sur lui ? Et les soupçons se sont égarés ailleurs, car j'ai bel et bien été endormi, monsieur le Président, et par Frédéric Larsan lui-même.
Et maître Sinclair, a-t-il été endormi comme vous ?
Ah non, monsieur le Président, non.
Vous ne trouvez pas cela singulier, monsieur Rouletabille?
Pas du tout, monsieur l'avocat général. Sinclair a fait très généreusement honneur au dîner, seulement il n'a pas bu une seule goutte de vin.
Et le soporifique était dans le vin?
Ah, n'en pas douter.
Et pourquoi votre ami n'a-t-il pas bu pendant le dîner? Se doutait-il de quelque chose?
Pas du tout, monsieur l'avocat général. Il suit un régime amincissant.
Silence! Silence dans la salle!
Je sais que cet intermède a un côté cocasse, mais si je n'avais pas été drogué, jamais Larsan ne se serait introduit dans la chambre de Mathilde Stangerson ce soir-là, et le malheur ne serait pas arrivé.
C'est exact, monsieur le président. Rouletabille a raison.
N'oublions pas, monsieur le président, que j'occupais la chambre voisine de celle de Larsan. J'étais donc particulièrement gênant ce soir-là, car il savait, ou il devait s'en douter, que je veillerais toute la nuit.
Vous le soupçonniez déjà?
Oui, mais lui ne le savait pas. Je pense qu'il devait craindre que je le surprenne alors qu'il sortait de sa chambre pour se rendre jusqu'à celle de Mathilde Stangerson. Il a donc attendu cette nuit-là que je sois endormi et que mon ami Sinclair soit occupé dans ma chambre à essayer de me réveiller. Et 10 minutes plus tard, Mademoiselle Stangerson était poignardée à 3 reprises et frôlait la mort.
Vous dites que vous soupçonniez Frédéric Larsan, mais comment en étiez-vous arrivé à le soupçonner?
Ah, une mécanique de l'esprit que j'appelle le bon bout de la raison, monsieur le président.
Que voulez-vous dire?
Eh bien, c'est très simple. Comme la plupart des choses, la raison a 2 bouts, le bon et le mauvais. Et il y en a un sur lequel vous pouvez vous appuyer avec solidité, c'est le bon. Or, le bon bout de ma raison m'a désigné Larsan. Il est terrible, vous savez, ce bon bout. Quoi que vous fassiez pour le plier, il refuse, il tient bon. S'il vous montre l'invraisemblable, c'est que l'invraisemblable est vrai. Tandis que l'autre bout, le mauvais, est capable de tout. C'est le roi des fausses évidences. C'est le mauvais bout de la raison qui fait les erreurs judiciaires, monsieur le président.
Laissez-moi apprécier comme il convient ce genre d'assertion et poursuivez plutôt votre démonstration, monsieur Rouletabille.
Parfaitement, monsieur le président. Donc, c'est au lendemain de ce qu'on a appelé l'attentat de la galerie mystérieuse qu'en revenant sur les lieux, tout s'est éclairé. Eh oui, l'assassin n'avait pas pu cette fois quitter normalement ou anormalement la galerie. En suivant donc le bon bout de ma raison...
Encore?
Ben oui, excusez-moi, monsieur le président. Et disons que j'ai tracé dans ma tête un cercle.
Et cela a débouché sur quoi?
C'est très simple. Puisque l'assassin ne peut être en dehors du cercle, il est dedans.
C'est vertigineux de logique.
Monsieur l'avocat général manie l'ironie avec brio, mais je le prie de suivre la suite de mon raisonnement. Donc, il me fallait compter ceux qui restaient dans le cercle. Ils étaient 4, le père Jacques, le professeur Stangerson, Frédéric Larsan et moi. 4 plus l'assassin égale 5. Or, matériellement, dans le cercle, nous n'étions que 4. Évidence, l'un des personnages était double. Le personnage que nous connaissions et, en même temps, l'assassin.
Le seul ennui de cette brillante démonstration, c'est que ce raisonnement s'applique, et j'en suis désolé à l'avance, au père Jacques, au professeur et à vous.
Non, monsieur le président, le professeur et le père Jacques ont été vus dans la galerie devant moi et en même temps que l'assassin. En revanche, lorsque j'ai tourné le coin de la galerie tournante, j'ai vu Frédéric Larsan, mais je n'ai plus vu l'assassin. Donc le seul qui ne s'est pas montré en même temps que l'assassin, et pour cause, c'est Frédéric Larsan.
C'est à peine incroyable. Oui, monsieur l'avocat général.
Monsieur le président, entre le moment où Joseph Rouletabille a cessé d'apercevoir l'assassin qui venait de disparaître dans la galerie tournante, et l'instant où il a vu Frédéric Larsan, il s'est passé exactement...
Oh, 3 secondes, monsieur l'avocat général.
3 secondes?
Ah oui, pas une de plus. Et il a donc tourné la galerie, enlevé prestement sa barbe, il s'est retourné et heurté à moi comme s'il poursuivait l'assassin. Voilà pourquoi tantôt il apparaît avec une barbe rousse à mademoiselle Stangerson, tantôt avec un collier de barbe châtain, qu'il fait ressembler d'ailleurs à monsieur Darzac, auprès d'un employé des postes. Ainsi, il se protégeait auprès de Mathilde et en même temps compromettait l'homme dont il avait juré la perte. Voilà ce que me disait, en tout cas, le bon bout de la raison, monsieur le président. Il rapprochait insensiblement les deux moitiés de personnages que je n'avais jamais vus en même temps, Frédéric Larsan et l'inconnu que je poursuivais.
Et les deux morceaux assemblés de ce puzzle tragique vous donnaient ce que tout le monde cherchait, l'assassin.
Voilà.
La cour reconnaît que les explications fournies par M. Joseph Rouletabille sont satisfaisantes, et je suis certain que messieurs les jurés sont de mon avis.
Mais
je parviens mal à comprendre comment vous avez pu admettre que Frédéric Larsan, un de nos policiers les plus célèbres, puisse être l'assassin.
Eh bien, si vous le permettez, monsieur le président, faisons la démarche inverse. Cette nuit-là, quelles étaient les raisons qui tout d'abord m'avaient éloigné de la culpabilité de Frédéric Larsan? Première raison, j'avais vu l'inconnu dans la chambre de Mathilde. Et, me précipitant vers la chambre de Frédéric Larsan, par l'extérieur, je l'y avais trouvé, les yeux bouffis de sommeil. Ah! Deuxième raison, l'échelle. Nous y reviendrons. Troisième raison, j'avais placé Frédéric Larsan au bout de la galerie tournante en lui disant que j'allais sauter dans la chambre de Mathilde pour essayer de prendre l'assassin. Or, je suis retourné dans cette chambre et j'y ai revu l'inconnu. Pour que Larsan soit coupable, il me fallait faire mentir ces trois signes extérieurs. Bon, le premier, pas de problème, le temps de descendre de l'échelle, Larsan quittait la chambre de Mademoiselle Stangerson, regagnait la sienne, où je le trouvais, comme je vous ai dit, les yeux bouffis de sommeil. Mais alors, pourquoi l'échelle? Si Larsan était l'assassin, il n'en avait absolument pas besoin, puisqu'il communiquait par la galerie intérieure avec l'appartement de sa victime. Là encore, je n'ai pas de problème. Robert Darzac était absent du château, ne l'oublions pas. Larsan avait donc tout intérêt à faire croire à un crime venu de l'extérieur. Et normalement, il place l'échelle contre le mur et le tour est joué. En outre, cette échelle pouvait également protéger sa fuite en cas de danger pressant. Elle était utile, cette échelle, même à Larsan. Reste le troisième signe extérieur, et alors là, je dois vous dire que celui-là m'a laissé sans voix pendant un moment.
On comprend cela, sachant que vous alliez surgir dans la chambre de Mademoiselle Stangerson, pourquoi se serait-il jeté tête baissée dans les ennuis?
Là, je peux également vous le dire.
C'est bien normal. Quand on expose un dossier de cette importance, il vaut mieux qu'il soit complet.
En retournant dans la chambre de sa victime, Larsan risquait de se faire prendre, c'est vrai, et rien ne l'obligeait à y revenir. Bon, je serais remonté à l'échelle, j'aurais constaté par la fenêtre la disparition de l'assassin, et une fois encore, nous nous serions perdus en conjecture. Or, Larsan est revenu. Pourquoi? Pourquoi courir un danger aussi grave alors que, en apparence, rien ne l'y obligeait? Eh bien, en fait, il avait oublié quelque chose de très important. Et quoi? A-t-il retrouvé cette chose? J'ai demandé à Madame Bernier, qui faisait la chambre tous les jours, de chercher, et elle a trouvé.
Quoi donc?
Une paire de fines lunettes. Ces lunettes, monsieur le président, les voici. Alors, dans un premier temps, ces lunettes fichaient toute ma théorie par terre. Pourquoi? Parce que jamais je n'avais vu Larsan porter des lunettes. Que signifiaient ces lunettes? J'arrivais pas à les faire entrer dans mon cercle. Et naturellement, la réponse était d'un infantilisme ahurissant. Évidemment que les lunettes lui appartenaient seulement. C'était des lunettes de presbyte. Personne d'entre nous n'avait jamais vu Larsan lire ou écrire. Il pouvait donc être presbyte. Et ça, la Sûreté Générale, on le savait. On connaissait sûrement Larsan et ses lunettes. Donc, les lunettes dans la chambre de Mathilde devenaient une terrible charge contre lui. Voilà pourquoi il a pris le risque de revenir. Le troisième signe extérieur qui semblait l'innocenter pouvait tout aussi bien se retourner contre lui. Et je serais reconnaissant, monsieur le président, de m'autoriser à boire un petit verre d'eau.
Bien sûr, bien sûr. Huissier, la carafe, un verre.
Oui.
Bien.
Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Ah oui.
J'aimerais que vous nous disiez, monsieur Rouletabille, ce que Frédéric Larsan venait faire dans la chambre de mademoiselle Stangerson au moment où il y perdait ses lunettes. Et pourquoi a-t-il tenté deux fois de l'assassiner?
Ah! Eh bien, parce qu'il l'adorait, monsieur le président.
Oh. Ah, c'est une raison qui m'avait échappé.
Ah, c'est une raison péremptoire, monsieur le président.
Ah, voyons cela.
Mais il était amoureux fou. Et ça justifie bien des choses. Ça rend également capable de tous les crimes.
Mademoiselle Stangerson le savait?
Oui, monsieur le président. Mais elle ignorait que l'inconnu qui la poursuivait était Frédéric Larsan, sans quoi le policier n'aurait jamais pu venir s'installer au château et n'aurait pas pu, la nuit de la galerie, pénétrer avec nous auprès de mademoiselle Stangerson, évidemment. Non. Non, elle a eu à subir les poursuites et les pressantes assiduités de Larsan sous un nom et sous un déguisement que nous ignorions, mais qu'elle pouvait, elle, connaître déjà.
S'il vous plaît, monsieur Rouletabille, je voudrais poser une question à monsieur Darzac. Monsieur Darzac.
Oui, monsieur le président.
Avez-vous à ce propos reçu les confidences de votre fiancée, mademoiselle Stangerson? Comment se fait-il qu'elle n'ait parlé de cela à personne? Cela aurait pu mettre la police et la justice sur les traces de l'assassin. Et du même coup, si vous êtes innocent, vous épargnez le grave désagrément d'être inculpé.
Mademoiselle Stangerson ne m'a parlé de rien, monsieur le président.
Vous souscrivez cependant à tout ce que vient de déclarer monsieur Rouletabille? Croyez-vous que mademoiselle Stangerson...
Mademoiselle Stangerson ne m'a jamais rien dit, monsieur le président.
Vous ne facilitez vraiment pas notre table. Poursuivez, monsieur Rouletabille. Dites-nous, par exemple, pourquoi, lors de la nuit de l'assassinat du garde, l'assassin a rapporté les papiers volés au professeur Stangerson. Comment expliquez-vous qu'il ait pu s'introduire dans la chambre fermée de la fille du professeur?
Pour cela... Ballmeyer n'a jamais été avare de fausses clés. C'est le prince du passe-partout. Le vol des documents, c'est une autre affaire.
Vous êtes décidément au courant de tout, monsieur Rouletabille.
Ça devrait vous faire plaisir, monsieur l'avocat général. Le vol des documents, c'était en plus. L'objectif de Ballmeyer, qui était amoureux de Mathilde, n'oublions pas, était, vous le pensez bien, d'empêcher son mariage avec Robert Darzac à n'importe quel prix. Quitte à perdre ce dernier de réputation. Espionnant sans cesse la fille du professeur, il lui dérobe un jour son réticule dans les grands magasins du Louvre. Il trouve la clé à tête de cuir. Il va au bureau de poste 40 sous le déguisement de Robert Darzac. Et là, et alors là, j'ouvre une parenthèse, Larsan Ballmeyer ne songe pas encore à l'assassinat. Néanmoins, il prend des précautions. Le stratagème, la ruse, vous savez, font partie de sa vie quotidienne. Il va faire, écoutez-moi bien, réaliser des empreintes du pied de Robert Darzac et se faire exécuter sur mesure, d'après ce dessin, des chaussures qu'il portera quand il voudra se faire passer pour l'homme qu'il hait le plus au monde.
Mais encore une fois, monsieur, pourquoi le vol?
Pour rien. Pour rien. Gratuitement. Larsan a eu le temps de fureter dans le pavillon, de voir quel meuble ouvrait cette fabuleuse petite clé à tête de cuivre, de découvrir les documents. Peut-être a-t-il l'idée de brouiller davantage les pistes en faisant croire à un crime crapuleux, par exemple. Deuxième hypothèse, il croit que la possession de ces documents facilitera ses desseins amoureux, et cela à la faveur d'un adroit chantage. Voir. En tout cas, son coup fait, il comprend que ces documents l'encombrent et risquent de le compromettre, il les rapporte. Alors, au point où nous sommes arrivés, je présume, monsieur le président, que vous souhaitez connaître l'explication du mystère de la chambre jaune.
Il semble, monsieur Rouletabille, si je m'en tiens à votre hypothèse, que ce mystère est déjà tout expliqué. C'est Frédéric Larsan qui a raconté comment l'assassin était sorti de la chambre
jaune. C'est vrai, monsieur le président.
Or, s'il est réellement coupable...
Ah, comment vous en doutez toujours?
Je vous en prie. Il lui a fallu une belle audace pour dévoiler que le criminel était sorti de la pièce quand le professeur Stangerson était seul derrière la porte et que ce dernier l'avait laissé sortir à la prière de sa fille. Il s'était contenté, pour mieux accabler M. Darzac, de raconter la vérité, se bornant simplement à substituer Darzac à lui-même.
Oh, écoutez, cet issu d'ânerie, M. le Président, ne résiste pas à l'analyse. Mlle Stangerson, étant assommée, ne pouvait faire aucune prière, fût-ce à son père, pas plus qu'elle ne pouvait refermer sur elle ni la serrure, ni le verrou. Souvenez-vous également que le professeur Stangerson a juré sur la tête de sa fille, à l'agonie, que la porte ne s'était pas ouverte.
C'est pourtant la seule façon d'expliquer les choses. La chambre jaune était un coffre-fort. Pour me servir de vos expressions, il était impossible à l'assassin de s'échapper normalement et anormalement. Quand on pénètre dans la chambre, on ne le trouve pas. Et pourtant, il faut bien qu'il s'échappe.
Oui, alors ça, c'est tout à fait inutile, monsieur le Président.
Allons bon, voilà autre chose. Et pourquoi était-ce inutile, d'après vous ?
Mais parce que l'assassin n'avait pas besoin de s'échapper.
Ah ben, ça, alors, et pourquoi ?
Mais parce qu'il n'y était pas.
L'assassin n'était pas dans la chambre jaune.
Mais non, monsieur le Président, il n'y était pas. C'est vous-même qui avez dit qu'il ne pouvait pas y être, et vous aviez raison. Et s'il ne pouvait pas y être, il n'y était pas. Je vous l'ai dit, monsieur le Président, il faut toujours suivre le bon bout de la raison.
Et que faites-vous des traces, monsieur Rouletabille?
Toujours les marques sensibles, monsieur l'avocat général. Les marques sensibles avec lesquelles on envoie un innocent chez monsieur Deblaire. On leur fait dire n'importe quoi. Ça m'en voilà, j'ai un tout petit cercle de vérité incontestable. L'assassin n'était pas dans la chambre jaune. Pourquoi a-t-on cru qu'il y était?
Je vous le demande.
À cause des marques de son passage, monsieur l'avocat général. Ah! Ça m'en voilà, il est peut-être passé là avant. Avant que Mlle Stangerson s'enferme dans sa chambre devant deux témoins, le père Jacques et le professeur Stangerson.
Il vous sera difficile de prouver, monsieur, que Mathilde Stangerson se soit suicidée sans l'aide de personne.
C'est pour ça que nous allons reconstituer l'affaire en deux phases, bien distinctes, séparées simplement l'une de l'autre par quelques heures.
Expliquez-vous.
Deux phases, la première pendant laquelle, c'est vrai, on a réellement tenté d'assassiner Mlle Stangerson. Tentative qu'elle a volontairement dissimulé.
Silence ! Silence dans la salle !
S'il vous plaît. La seconde phase, pendant laquelle, à la suite d'un cauchemar qu'elle a eu, ceux qui étaient dans le laboratoire ont cru qu'on l'assassinait.
Selon vous, Mlle Stangerson aurait caché à ses proches l'agression dont elle aurait été victime avant de pénétrer dans la chambre jaune ?
Et exactement, monsieur le Président. Ce qui explique d'ailleurs sa coiffure en bandeau et son cou enveloppé dans une écharpe, c'était pour cacher le choc formidable qu'elle avait reçu à la temple et également les marques de strangulation. Souvenez-vous qu'elle s'était donné beaucoup de mal, c'était en toutes lettres dans le quotidien le matin. Mlle Stangerson a prié le père Jacques de ne pas entrer dans la chambre jaune, de ne pas la déranger. Eh bien, à l'évidence, c'est parce que toutes les traces laissées par l'assassin étaient encore là. L'os de mouton, le béret, le mouchoir, la main sanglante. Voilà, c'est pourquoi la jeune femme s'est enfermée dans sa chambre.
Vous allez sûrement penser que j'insiste, mais je vous prie de me pardonner, monsieur le Président. Comment monsieur Rouletabille peut-il expliquer les cris et les coups de feu?
Comme tout le reste. Comme tout le reste, simplement, nous entrons dans la seconde phase que j'appellerai celle du cauchemar.
Un cauchemar ?
Oui, oui, monsieur le Président. Mlle Stangerson s'est endormie ce soir-là. Elle est hantée, et on le serait à moins, par l'horrible scène qu'elle a vécue dans l'après-midi. Et elle rêve. Elle renvoie l'assassin qui se précipite sur elle. Et dans son cauchemar, elle hurle à l'assassin, au secours ! Sa main tâtonne, atteint le revolver qu'elle a posé près d'elle avant de se coucher sur la table de nuit, mais elle heurte la table avec une telle force qu'elle la renverse. Le revolver roule par terre, un coup part et va se loger dans le plafond.
Alors là, je vous arrête.
Moi, monsieur le Président ?
Non, excusez-moi, je voulais dire, il a toujours été question de deux coups de feu.
C'est vrai, c'est vrai. Et il y avait là une apparente contradiction. Je suis donc allé demander une explication à la chambre jaune.
Et alors ?
La chambre jaune m'a répondu.
C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 23e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Darzac, Michel Rulle, le président Rocou, Claude Pieplu, l'avocat général, Jean Brassin. Et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amsi, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 31 août 1983. Bientôt, la fin et la résolution du mystère de la Chambre jaune. Comme l'on sait, Gaston Leroux avait écrit sa suite, Le parfum de la dame en noir. En 1993, l'écrivain José Cabanis revenait sur le bon bout de la raison.
Alors, ce qui est intéressant, voyez-vous, pour ces deux livres, aussi bien Le parfum de la dame en noir que La Chambre jaune, c'est que l'auteur, Gaston Leroux, a voulu recommencer et faire mieux, d'ailleurs il le dit lui-même, que Conan Doyle et qu'Edgar Poe. Parce que dans Edgar Poe et dans Conan Doyle, il y a aussi des chambres qui sont absolument closes et où un crime a lieu qui paraît inexplicable. Mais ces chambres ne sont pas si closes que ça, il y a toujours un petit pertuis par lequel peut passer l'assassin ou du moins son instrument. Tandis que là, il a voulu refaire la même chose, mais avec une chambre qui est vraiment close, c'est la chambre jaune. Et d'autre part, il dit lui-même qu'il a voulu faire une réplique de Sherlock Holmes dans Rouletabille. Alors ça nous ramène un peu au personnage, en sens que Sherlock Holmes était quelqu'un qui prétendait résoudre les problèmes criminels par sa seule intelligence, par son calcul. Et bien lui aussi, le jeune Rouletabille, à 18 ans, veut aussi, sa formule est de prendre le bon bout de sa raison. C'est-à-dire qu'il se met en face du problème, il ne va pas rechercher à droite et à gauche des indices, mais il raisonne, il essaie de raisonner juste. Et sa force, la force de Rouletabille, qui était celle un peu de Sherlock Holmes, c'est justement qu'il résout tout par sa raison. Alors il se trouve par conséquent qu'une fois que ces deux livres ont été écrits, qui ont eu un succès considérable, il faut bien avouer que le Gaston Leroux a été pris un peu par le vertige, par le tourbillon du succès. Et que les suites de ces deux livres ne sont pas du tout pareilles. Je veux dire par là que ce côté mécanique du roman policier, où chaque élément, chaque événement, chaque trait a une signification, que chaque élément, chaque trait épaissit le problème d'un côté, mais sans que le lecteur le sache encore, il le verra plus tard, lui apporte aussi une solution, un élément de solution. Tout ça, c'est très calculé. C'est un échafaudage, une mécanique très, très parfaite. Tandis que dans les livres qui vont suivre, alors ce sont des romans d'aventure, avec des chevauchés, des enlèvements, des châteaux, enfin tout ça, c'est tout à fait autrement. Et il y a encore quelque chose de supplémentaire, qui, à mon avis, en enlève beaucoup du prix, c'est que Rouletabille vieillit, n'est-ce pas ? À la suite de La Dame en Noir, vous avez Rouletabille chez le tsar, n'est-ce pas ? Où Rouletabille part pour la Russie pour essayer de protéger un général qui est poursuivi par des nihilistes, n'est-ce pas ?
C'est longtemps après, ça se passe en 1905.
Ça se passe en 1905. Par conséquent, c'est déjà 10 ans après la Dame en Noir. Donc, par conséquent, Rouletabille a plus de 30 ans, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez le Château Noir qui se passe alors dans les Balkans, au moment de la guerre des Balkans, où le Château Noir, c'est un peu Dracula, le Château des Carpates, enfin c'est un très, très méchant homme qui vit dans un château dans ce pays-là, entouré par des sbires, et qui terrorise le pays et qui est la cruauté même. Enfin, ça se passe vers 1912. Par conséquent, Rouletabille est près de la quarantaine, n'est-ce pas ? Donc il n'est plus du tout le petit jeune homme, reporter, amusant, dégagé, drôle, qu'on traite en enfant, on dit toujours le bon petit, on l'appelle. C'est plus un petit, il a près de 40 ans. Hein. Près de 40 ans, on n'est plus un petit.
José Cabanis, le 23 août 1993, sur France Culture. À réécouter ou à télécharger, ainsi que les épisodes précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, le 24e et avant-dernier épisode du mystère de la Chambre jaune.